Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Des détenus qui refusent de regagner leur cellule, c'était à la maison d'arrêt de Corba hier soir. Manifestation hier à Lyon également pour dénoncer les choix budgétaires du gouvernement et notamment les suppressions de postes d'enseignants. Après les services d'urgence des Rayons et de Lyon Sud cet hiver, c'est le service des urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse qui est touché par une grève à partir d'aujourd'hui. Visite de terrain hier pour Grégory Doucet et son nouvel adjoint à la Sûreté, Philippe Prieto. La préfecture organise demain un exercice de sécurité centré sur le tunnel de la Croix-Rousse. Et puis des nouvelles du brasseur lyonnais Ninkasi qui a été placé fin 2025 en procédure de sauvegarde. Christophe Fargier, son fondateur et président, sera notre invité.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, mais d'abord l'association PETA qui va faire circuler ce mercredi dans les rues de Lyon un camion d'abattoir diffusant des cris de cochons apeurés. Capitale du Mâchon, au lieu de la consommation de saucisses, saucissons et autres spécialités à base de porc, Lyon n'a pas été choisi par hasard pour cette manifestation un peu particulière. L'Enfer Mobile, c'est le nom du camion, diffusera les hurlements de cochons enregistrés lors de leur mise à mort. Il terminera son périple au Hall Paul Bocuse pour ainsi rappeler d'où proviennent les saucisses, boudins et autres charcuteries qui y sont vendues, indique PETA dans un communiqué. Des militants de PETA sensibiliseront également le public à l'aide de pamphlets, invitant tout un chacun à épargner ses animaux en adoptant une alimentation végane. Le guide du végan en herbe sera également distribué gratuitement au fil de la déambulation au départ de Bellecour. En France, environ 23 millions de cochons sont élevés, transportés et abattus chaque année pour la consommation de viande, consommation qui a d'ailleurs augmenté de 2,6% l'an dernier, selon l'interprofession nationale porcine. Une cinquantaine de détenus ont refusé hier soir de regagner leur cellule à la maison d'arrêt de Corba. L'incident a concerné le hall numéro 1, contenant 17 cellules triplées, 4 cellules quadruplées et 2 cellules PMR. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont dû être mobilisées afin de rétablir l'ordre dans la prison corbasienne. Manifestation hier à Lyon pour dénoncer le choix budgétaire du gouvernement et notamment les suppressions de postes d'enseignants. Une intersyndicale de l'éducation avait appelé à la grève. Au même moment, se tenait à Lyon la dernière réunion entre académie et syndicats concernant le nombre de fermetures et d'ouvertures de classes. On est à 149 fermetures nettes de classes. Les syndicats regrettent aussi l'absence de création de postes de remplaçants. Après les services d'urgence d'Édouard Herriot puis de Lyon Sud cet hiver, c'est le service des urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse qui va à son tour être touché par une grève à partir de ce mercredi. Les personnels de ce service veulent obtenir des renforts, ou plus exactement garder les renforts. Un poste d'infirmière, un poste d'aide-soignante et un poste brancardier octroyés le temps des travaux d'agrandissement du service. La direction a prévu toutefois de les supprimer, ces renforts, en juin à l'issue des travaux. Décision qui, selon les syndicats, met en péril la qualité des soins et les conditions de travail. Philippe Prieto, nouvel adjoint à la Sûreté à la ville de Lyon, et Grégory Doucet, le maire, se sont rendus hier au poste de police municipale du 1er arrondissement. Le maire a rappelé les 20 millions d'euros investis sur le précédent mandat pour fidéliser les agents. Ils sont au nombre de 319 selon les derniers comptages. Grégory Doucet a loué leur efficacité, et notamment en matière de coopération avec la police nationale, ce qui a permis, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, de concentrer les efforts sur la place Gabriel-Péry à la Guillotière, la place Mazagran, ou encore de limiter la surconsommation d'alcool et d'apaiser la vie nocturne dans le 1er arrondissement, a-t-il rappelé. Michel Prieto lui a rappelé que les attentes sont très fortes sur le quartier Moncey-Pardieu, au sud de Confluence, mais aussi dans les 8e et 9e arrondissements. L'adjoint à la Sûreté devra également accompagner la mise en place de 3 postes de police mobile. Un véhicule siglé police municipale se déplacera dans les différents quartiers de la ville et permettra une intervention rapide de la police et sera aussi en relais d'information. La préfecture du Rhône organise demain jeudi un exercice de sécurité civile centré sur le tunnel de la Croix-Rousse. Aucune intervention réelle n'aura lieu et la circulation automobile ne sera donc pas affectée. Cette simulation vise à tester les capacités des services de l'État, des collectivités et des exploitants face à des urgences comme des accidents ou catastrophes. L'événement servira surtout à évaluer le nouveau dispositif FR Alert, système d'alerte par diffusion cellulaire. Les habitants des 1er, 4e, 6e et 9e arrondissements de Lyon recevront une notification sur leur téléphone portable accompagnée d'un signal sonore spécifique. Il s'agit d'un exercice et donc aucune action du public n'est nécessaire demain.
Lyon Demain, programme durable.
Le brasseur lyonnais Ninkasi a été placé fin 2025 en procédure de sauvegarde. Le groupe, créé à Gerland à la fin des années 90, a connu une expansion fulgurante avec pas moins de 25 implantations dans la région et l'ambition de développer la marque au niveau national. L'annonce de la procédure de sauvegarde a fait craindre le pire, mais le fondateur Christophe Fargier, toujours aux manettes du groupe, tient à expliquer pour assurer.
Cette situation, elle vient de l'investissement massif qu'on a fait sur notre usine à Tarare, où on s'est beaucoup endetté, et elle vient d'un contexte compliqué qui fait que la montée en puissance de notre chiffre d'affaires est pas suffisante pour honorer le remboursement de la dette. Donc on a essayé de discuter avec nos banquiers et nos partenaires financiers dans le cadre d'une conciliation. On l'a fait et on n'a pas réussi à obtenir des conditions suffisantes, et donc on a ouvert cette procédure de sauvegarde pour aller chercher une restructuration de notre dette. Mais en même temps, il y a une première étape qui est importante, c'est nous de continuer à faire des efforts. Parce qu'avant de demander des efforts aux banques et aux financiers, il faut que nous-mêmes on en fasse. C'est ce qui est en cours et on est sur le point d'aboutir. Voilà, on a quasiment sur les trois dernières années 2 millions d'euros d'économies sur nos structures qui créent les conditions de la construction d'un plan et j'espère d'une sortie par le haut.
Alors sortie par le haut, obligation d'en sortir en tout cas au bout d'un an. Donc qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui ?
L'objectif c'est d'aller chercher un peu plus de croissance de chiffre d'affaires. Je parlais de la fabrique de bière où on est allé chercher 5% l'année dernière. Cette année on espère aller chercher 8% de croissance. Faire en sorte que des moteurs comme la distillerie continuent de performer. Les économies pour montrer à nos interlocuteurs qu'on a fait des efforts significatifs. Donc tout ça, ça nous vise à améliorer la capacité de trésorerie de l'entreprise pour construire un plan de remboursement de la dette plus étalé qui soit compatible avec notre situation et qui ne nous remette pas en risque aussi. L'idée, c'est de sortir avec un plan qui garantisse la pérennité de l'entreprise sur les années qui viennent. Parce qu'on n'aura pas le droit à une deuxième chance, en fait.
Il y a deux projets qui étaient plus ou moins en panne. Il y a Gerland qui a été détruit et qui est en attente de reconstruction. Il y a la Soleil qui est un projet annoncé mais qui n'arrive pas. Comment vous voyez ces deux projets ?
Gerland, ça contribue à nos difficultés. Gerland avait une contribution significative à la performance du groupe. Aujourd'hui, si on veut sortir par le haut, il faut que le chantier démarre. Et actuellement, l'entreprise Promoval s'y emploie et fait tout son possible pour que le chantier démarre au mois de juin pour une livraison au printemps 28 et une rouverture d'une Ninkasi Gerland à l'automne 28. Et la Soleil, on a mis le projet un petit peu en stand-by avec les élections. Voilà, maintenant, il y a un nouvel exécutif qu'il va falloir rencontrer pour savoir si ce projet les intéresse, s'ils sont prêts à nous accompagner dans sa mise en œuvre.
La stratégie globale quand même de l'entreprise reste la même, avec toujours cette volonté de grossir au niveau national en particulier.
Oui, la stratégie, c'est de devenir une belle marque de bière au national. Alors, c'est vrai que le marché de la bière, il n'a plus la dynamique qu'il avait à une certaine époque, mais même si sur l'année 25, il a été quasiment à l'équilibre, vous avez les marques françaises qui ont quand même continué à progresser. Et donc moi je pense qu'on peut trouver notre place. On est dans cette tendance du consommer moins mais consommer mieux, consommer des marques qui ont de l'engagement, qui sont soucieuses de leur écosystème, de l'environnement. Donc je pense qu'on a une place à prendre.
Le lancement d'une gamme de bières premier prix figure parmi les mesures pour augmenter le chiffre d'affaires et redresser la barre. Parmi les nouveautés aussi, un pack de 6 bouteilles de bière blonde spécialement conçu pour les grandes surfaces. Devenue entreprise à mission, Ninkasi n'entend pas reculer sur son engagement RSE, bien au contraire, comme nous l'explique Charlotte Crozier, directrice de la communication de Ninkasi.
La partie RSE, stratégie d'impact, fait partie de la stratégie tout court de Ninkasi, donc il n'y a pas une stratégie d'un côté et une stratégie RSE de l'autre. Et la deuxième chose, c'est que l'entreprise à mission, elle est inscrite dans nos statuts d'entreprise depuis juillet dernier, c'est-à-dire qu'elle nous oblige, on a un comité de mission qui se réunit deux fois par an, on va publier un rapport de mission en même temps que notre rapport financier, qui est obligatoire, et on va être audité par un organisme tiers indépendant, un OTI, qui viendra vérifier que ce qu'on dit, on le fait vraiment.
Est-ce que ce n'est pas une contrainte supplémentaire ?
Non, c'est un élément moteur au contraire, parce que je pense que c'est un élément qui permet à nos clients de choisir nos bières pour des raisons aussi écologiques, environnementales, parce que c'est une bière bien produite, qui est produite dans les limites planétaires, et c'est aussi un projet qui rassemble en interne. Il y a beaucoup de gens, on le voit lors des entretiens d'embauche notamment, qui rejoignent les Ninkasi parce qu'ils ont un besoin de sens et un besoin de travailler pour une entreprise qui fait sens et qui a des valeurs engagées sur la partie sociale et environnementale.
Deux ou trois marqueurs là, qui font sens dans cette démarche éco-responsable, deux ou trois exemples.
La diversité et l'inclusion, elle est très forte. À chaque fois, on est appelé à témoigner. On a eu le Grand Prix de la diversité et de l'inclusion en 2023, puisque on recrute chaque année entre 40 et 50 personnes sur les 200 collaborateurs Ninkasi, qui sont des personnes soit en situation de handicap, soit éloignées de l'emploi, c'est-à-dire qui ont décroché depuis longtemps et qui viennent et qu'on forme. Et c'est des chiffres qui ont été reconnus comme très impressionnants par différents cabinets. C'est pour ça qu'on a eu le Grand Prix de la diversité. Donc ça, c'est un point très important chez nous, la partie sociale et qui est très forte. Et la partie environnementale, on a fait le choix, malgré le fait qu'on est en procédure de sauvegarde, d'aller sur une fourniture de malt régénératif, de construire une filière avec Soufflet Malt et avec Planet Score qui permettent d'avoir un malt mieux disant pour l'environnement, pour atteindre une note Planet Score B sur tous les critères et qui assure également aux agriculteurs une juste rémunération. Donc ce choix-là, ça nous coûte un peu plus cher que du malt conventionnel, mais on a fait le choix de ne pas faire concession là-dessus. Par contre, les limites de ça, c'est que dans l'idéal, on aurait aimé passer à du malt bio complètement. On ne peut pas le faire parce que les marges de prix sont trop importantes à franchir. Néanmoins, la proportion de malt bio qu'on avait dans nos recettes, on l'a quand même conservée pour continuer à soutenir la filière.
Et vous continuez votre recherche en ce qui concerne notamment les emballages, parce que les emballages, on voit que ça évolue. On n'est plus dans seulement la bouteille en verre, par exemple.
Oui, alors on avait fait notre analyse de cycle de vie en 2022 pour regarder quelles étaient les plus grosses sources à émissions de CO2 pour nous. Donc évidemment, c'est le verre. Et quand on a fait cet ACV, on s'était dit, est-ce qu'il faut qu'on aille que sur de la canette ou que sur de la bouteille consignée? Et comme sur beaucoup de sujets en termes de RSE, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours gris. Donc on a décidé d'avancer sur les deux. Pourquoi? Parce que la canette, c'était possible de le faire immédiatement. L'avantage de la canette, c'est que l'aluminium est recyclable à l'infini. Néanmoins, il n'est pas recyclé complètement parce qu'il y a encore un gros problème de tri et de gestion du tri. Donc on estime qu'il y a 50% de l'aluminium qui est recyclé, des canettes qui sont recyclées au global en France, mais ça nous a permis d'avancer sur ce sujet de la canette qui est quand même mieux disante que le verre qu'on jette dans la benne à verre. Et on avance en parallèle sur la partie consigne, mais ça c'est un sujet écosystémique par définition puisque ça ne dépend pas que de nous. Donc là, nous, on s'engage à avoir d'ici l'année prochaine des bouteilles qui sont lavables et lessivables. Donc on est en train de faire plein de tests sur des étiquettes pour que nos bouteilles puissent être nettoyées. Après, la remise en place de la consigne en France, c'est un sujet qui dépend aussi des distributeurs grandes surfaces qui mettent en place des points de collecte, d'un écosystème de lavage des bouteilles qui puissent mailler le territoire français, etc. Donc c'est un sujet sur le moyen et long cours, mais il y a énormément d'incitations de l'État à remettre en place la filière consigne, donc ça va revenir.
Ninkasi veut aussi profiter de cette période de transition et de résilience pour lancer une nouvelle charte d'aménagement des lieux qui seront revisités avec plus de chaleur et plus de couleurs. Olivier Orsucci, directeur de création du groupe Ninkasi.
Design actuel, très industriel, assez sombre, avec des touches de rouge, notamment sur la scène. On l'exploite depuis bientôt 10 ans. Et 10 ans aujourd'hui, dans l'aménagement d'un lieu qui accueille du public, ça commence à être long. On va dire qu'il y a 10 ans, lorsqu'on l'a présenté, cette identité, elle était novatrice, on l'avait peu vue. Et puis, le temps passant, les lieux évoluant, la concurrence aussi évolue à notre rythme, on avait, nous, envie de se démarquer, d'avoir quelque chose de nouveau, d'avoir une expérience aussi un peu plus poussée pour nos clients, puisque on l'a vu, nous, il y a 10 ans, on faisait pas encore de whisky chez Ninkasi, on commençait à peine, donc la brique whisky, finalement, consommation et toute la consommation qui va avec n'était pas vraiment intégrée. Une consommation plus mixologie, cocktail, qui demande un niveau de confort un peu supérieur. Donc l'idée, ça a été d'avoir des lieux qui soient déjà, dans un premier temps, plus actuels, qui répondent un peu aux attentes des consommateurs en 2026, des lieux qui soient un peu plus ludiques, un peu moins froids, un peu plus vivants, un peu plus conviviaux, et puis qui offrent un niveau de confort aussi plus poussé. Ce qu'on va rechercher, nous, de toute façon, toujours, c'est l'expérience client. Avoir quelque chose qui nous donne envie de sortir de la maison, de quitter le canapé, de quitter Netflix et de quitter Uber Eats pour venir dans un lieu vivre quelque chose de différent.
À quoi ça va ressembler alors?
Alors effectivement, ça va visuellement pas mal changer. On a voulu jouer sur trois curseurs. Le premier, c'est le côté brut, assez industriel, pour avoir des lieux qui nous ressemblent, puisqu'on a quand même un projet, nous, qui est industriel en tant que fabricant de boissons. Puis on a le côté plus playful, ludique, plus coloré, plus vivant, plus chaleureux, pour apporter finalement cette petite étincelle qui nous manquait un peu. Et puis enfin, le côté néo-bistro, pour avoir quelque chose qui va nous raconter une histoire, qui va nous permettre de conserver des parties un peu plus patinées, un peu plus chaleureuses, qui nous inspirait directement des lieux dans lesquels on va venir s'imbriquer.
Avec une démarche éco-responsable, beaucoup de réemploi, je crois que vous avez travaillé avec Made in Past notamment.
On a voulu avoir un geste fort d'éco-design, comme on l'a pu le faire sur nos packaging assez récemment, et comme on le fait aussi dans notre manière de produire nos bières notamment. On a des engagements RSE qui sont assez forts chez Ninkasi. On voulait que ça se retranscrive aussi dans l'aménagement des lieux, donc avec le choix du mobilier notamment, avec des mobiliers qui sont composés de matières recyclés, notamment avec du mobilier de chez Duplex, qui est un fabricant belge. On a voulu aussi intégrer des matières qui sont biosourcées, qui sont faites à partir de verre recyclé notamment. On va retrouver des plateaux de table et des comptoirs de bar faits par Enisi, qui est un fabricant de biomatières. Et enfin, effectivement, on a voulu aussi, dans notre manière de concevoir vraiment initiale, réutiliser des matériaux. Typiquement, c'est ce qu'on va faire pour le prochain Ninkasi Gerland, pour le renouveau du Ninkasi Gerland. Avant de détruire le lieu, on l'a déconstruit. On a travaillé effectivement avec Made in Past, avec une entreprise qui est spécialisée dans la déconstruction pour le réemploi des matériaux, pour qu'ensuite on puisse réutiliser toutes ces matières qui étaient déjà exploitées dans le futur lieu.
Ninkasi est déjà présent à Lille, Montpellier, Rouen, Besançon ou encore La Roche-sur-Yon et devrait prochainement s'implanter à Roanne et Annecy en 2027. Enfin, le salon Horizon Senior s'est ouvert hier au Palais de la Bourse de Lyon. Il se tient jusqu'à ce soir, 18h. Santé, transmission, habitat, informatique, mais aussi loisirs, voyages, solidarité sont autant de thèmes abordés lors de cette 10e édition donc du salon Horizon Senior. C'est au Palais de la Bourse. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition. Excellente journée.